Il y a quelques heures, on me disait Feliz Año Nuevo, avec 6 heures de décalage. Vous voyez que on aurait pu attendre encore un peu. J'étais à Lima, avec une pleine lune aussi belle qu'en Suisse. Il est vrai que quand on touche les terres précolombiennes ou les terres indiennes, on est peut-être plus sensible qu'à l'ordinaire. Ce soir, j'aimerais vous parler peut-être un peu. Oh, je vais faire une deuxième conférence, ce ne sera pas la même. Vous parlez un peu de ce que j'ai ressenti en 15 jours à Lima. C'est-à-dire cette impression de voir à la fois un monde indien en mouvement, des gens qui partent des montagnes, qui descendent dans une ville de 10 millions d'habitants, ou comme on le verra tout à l'heure, puisque notre sujet c'est plutôt le Mexique, c'est de réimaginer mon premier contact en 1968 avec une ville qui avait le même nombre d'habitants que Lima aujourd'hui, Mexico. Et pendant mes études d'anthropologie, j'ai particulièrement travaillé dans une zone de la ville de Mexico qui se trouve à l'endroit où il reste encore un peu du lac de Texcoco, dans un quartier qui a tellement changé depuis, puisque au départ, c'était simplement des pueblos jóvenes, des gens qui s'installaient, de nouveau des indigènes, des paysans qui arrivaient à Mexico. Et qu'en quelques mois, en quelques années, ça s'appelle Nezahualcóyotl, et il y a 4 millions et demi d'habitants au même endroit. De 8 ou 10 millions d'habitants, on arrive gentiment à 22 millions d'habitants. Et ce côté un peu saisissant que j'ai ressenti particulièrement, je vous le disais tout à l'heure, dans les quartiers comme celui de Callao, de la Victoria, ou même les nouveaux quartiers du sud à Lima, eh bien, ce sont des émotions qu'on ressent comme ça lorsque on marque le temps et qu'on voit l'évolution des choses. Alors ce soir, j'aimerais vous présenter à travers l'idée de In Xochitl, In Cuicatl, non seulement cette évolution du temps, mais ce qui représente à la fois la fleur et le champ. C'est-à-dire la fleur qui est, pour le précolombien, pour l'indien, ce qui palpite, ce qui bouge, ce qui vit, ce qui, à l'intérieur de mon corps, continue à fonctionner depuis le jour de ma naissance. Et en même temps, ce qui continue à fonctionner, lorsque je dis par le champ, je viens de dire par la fleur, vous l'avez compris, la fleur de la vie. Par le chant, c'est mon atma, c'est ma respiration. C'est le fait de pouvoir vous parler et d'exprimer comme dans un volute quelque chose qui passe, je ne sais pas très bien où d'ailleurs, je n'ai jamais su où, de mon cerveau à la parole et ensuite dans vos oreilles. Or, chez les précolombiens, on fonctionnait de la même manière. On pénétrait un jour dans un calmecac, dans un collège, et puis on essayait de se remplir. De se remplir à la fois d'énergie, de compréhension, de musique, de théâtre, de poésie surtout. La poésie, si ce soir nous allons parler des dieux et des soleils, c'est peut-être un peu par là qu'on peut tenter de saisir cette chose palpable, qu'on saisit seulement lorsqu'on a réussi à monter petit à petit tous les degrés du monde, tous les degrés des pyramides, et qu'on arrive, comme le disait ce même Nezahualcóyotl, le grand poème que je vous lirai tout à l'heure, qui est tout petit, mais qui est grand par son importance, écrit par ce prince de Texcoco, nous fait bien représenter, enfin nous représente véritablement cet aspect de la sensibilité précolombienne qui espérait, comme il a su le prédire, qu'en dessus du 13e ciel, tout à fait au sommet du ciel, il y avait peut-être quelque chose d'intangible, impalpable comme le vent, impalpable comme la nuit, et que cette espèce de petite étincelle au sommet du ciel, c'était effectivement ce qu'on ressent lorsque. Où sont cachés nos musiciens? Admettons que nous soyons dans un calmecac et que nous aimerions faire sortir un peu l'essence de cette poésie, de cette musique. Eh bien, on demanderait justement à avoir une soirée à la fois un peu poétique, bien sûr, je le disais, mais avec cet aspect à la fois théâtral et musical. Où sont cachés nos musiciens? Je sais qu'ils aiment le pulque. Enfin, ce soir, c'est plutôt tequila. Ils ont fait fort. C'est une deuxième, la dernière fois c'était une première. Ce groupe In Xochitl, In Cuicatl va vous interpréter un premier morceau qui s'appelle Olin. Maria Elena, Marta, Carlos, Paco. Olin, c'est un peu le thème de ce soir. Vous l'avez sous les yeux. C'est à la fois ce calendrier aztèque. Essayez de pénétrer à l'intérieur, essayez de tourner avec lui, essayez d'imaginer ces mouvements qui vont se former devant vous, un soleil au centre, Tonantzu. Essayez d'imaginer les quatre éléments qui vont se mettre en mouvement maintenant. Essayez d'imaginer les 20 jours du calendrier de 13 fois 20 jours, de 260 jours, qui commence par l'alligator et qui terminera justement par la fleur de la vie, par la fleur elle-même, tout en haut à midi et demi. Et puis, eux qui vont tenter de vous remettre tout cela en place. C'est-à-dire un peu comme si maintenant nous allions, comme on le faisait très fréquemment chez les précolombiens, recréer le monde, imaginer une genèse nouvelle. Imaginons qu'on puisse maintenant remettre les choses en place pour que ces quatre éléments, dans un endroit, on ne va pas le mentionner, on va peut-être se placer aux alentours de la Venta ou dans un endroit qu'on pourrait retrouver chez les Mayas du côté de Tikal. Enfin, dans quelque chose qui ressemble à une terre humide, avec de l'humus, une jungle, avec peut-être 200 ou 260 jours de pluie par année. Et puis, tentons maintenant de voir ce qu'on peut faire avec ces quatre éléments. La terre, le feu, ce côté chtonien, avec naturellement l'eau, qui à la fois par la pluie et par la façon de descendre sur la terre va permettre tout à coup d'insuffler l'esprit, le vent, l'air, avant de mettre tout cela en mouvement. All in. Thank you. María Elena, Marta, Carlos, Paco. Je ne sais pas si vous avez senti comme moi ce curieux moment où, sorti de la jungle, créant le monde, regardant les éléments, partant du jaguar que nous évoquerons tout à l'heure, glissant vers le soleil de feu. Nous avons glissé ensuite vers l'eau, bien sûr, et pour terminer, vers ce côté spirituel, du vent, de l'air, de l'esprit, tout en imaginant que par ce glypholine, tout à coup, le centre, avec Tonantiu, allait mettre tout cela en mouvement jusqu'au moment où Tonantiu allait curieusement se changer. J'y ai pensé au moment du premier son à cordes, quand Tonantiu s'est changé en Pedro de Alvarado. On l'appelait comme ça, il était roux, il était blond, il avait les cheveux brûlés, il venait d'Espagne. Et tout à coup, la musique change et on se retrouve avec le même rythme, la même fonction précolombienne. Mais là, insensiblement, on s'imagine beaucoup mieux être devant la Vierge de Guadeloupe ou devant un sanctuaire chrétien transformé à partir de l'époque précolombienne. Vous avez certainement pris le temps d'observer ce calendrier et vous avez ressenti ce mouvement que j'évoquais, parti du premier signe jusqu'au 20e pour arriver jusqu'à la fleur. Depuis cet alligator, vous l'avez senti dans la jungle qui s'élève doucement comme un corps mort en dessus de cette eau primordiale et qui tout à coup, grâce à ces quelques crêtes qui sont en dessus de son corps, va créer le monde, les montagnes, la véritable genèse. Jusqu'à cette fin, au moment où vous allez prononcer le mot 13 fleurs, qui est à la fin du calendrier, ce 13 fleurs qui déjà prédispose à quelque chose de beaucoup plus impressionnant, c'est-à-dire la mort qui devient source de vie, oui. Et il est vrai que depuis quelques années, on connaît mieux tout ce monde et cette cosmogonie, cette cosmographie, cette fonction de l'ensemble de notre cosmos, et les précolombiens l'avaient bien pressenti, ils avaient saisi qu'effectivement, en dehors du temps, en dehors de l'espace, il y avait certainement des renouveaux, il y avait des Big Bang, il y avait des galaxies, il y avait des choses qui se mettaient en mouvement dans cet univers. On a cette impression extrêmement moderne lorsqu'on aborde l'art précolombien, que par leur symbolique, par leur compréhension de la nature, comme vous l'avez senti par la musique, par ce côté un peu théâtral de Lynn tout à l'heure, oui, eh bien on pénètre immédiatement dans cette matière première qui fait que les choses bougent, que les choses tournent. Tonantiu, sur le grand calendrier aztèque, est le centre, le cinquième soleil, celui qu'on appelait Nawi Olin, quatre mouvements. Celui qui crée par sa capacité énergétique l'unité presque alchimique des quatre éléments. Et puis autour, naturellement, le mouvement qu'on vient d'évoquer, oui. Or, lorsqu'on imagine le monde précolombien, puisqu'on va aborder à la fois ces soleils que j'évoque déjà, et puis en même temps ces dieux, eh bien, il y a d'abord un problème de dualité. Une dualité qui est régi naturellement toujours par cette idée vitale que vous avez sous la forme de Eakatl, avec ce bec assez curieux, cette divinité qui est vraiment le créateur de la culture, de toute chose, et qui, sous la forme de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, nous évoque véritablement tout ce que le précolombien chérit, mais il fait dos, il a dos, il est posé exactement en contrepoint derrière la mort. Cette mort qui devient obligatoirement créatrice et que là vous ressentez de façon extrêmement vitalisante à la fois par ces taches jaunes qui représentent la putréfaction avec ces mains qui sont découpées avec cette étrange façon de faire de la musique, dirais-je, avec ce mouvement des mains et cette sonaille qui elle-même est faite de peau de sacrifié, oui. Cette opposition, on la retrouve dans la multiplicité du calendrier. Si vous avez su compter les signes tout à l'heure, vous allez voir qu'effectivement, ils sont posés comme un véritable puzzle sur cette divinité qu'est Teslaslipoca. Je ne vais pas vous abreuver de nom de Dieu ce soir. Mais regardez comment une divinité peut tout à coup nous montrer que par son ensemble presque géographique, elle reprend les 20 signes de ce calendrier. Regardez par exemple l'expression de la bouche. Un peu comme vous l'entendrez tout à l'heure de la bouche de Martha ou de Maria Elena, lorsque quelque chose sort de la bouche, lorsqu'on parle, lorsqu'on chante, c'est bien la fleur elle-même, cette fleur et ce chant. que j'évoquais. Or, sur chacune des parties du corps, il y a un des signes qui évoque ainsi petit à petit une sorte de constellation de force et de matière. Chacun d'entre vous porte un nom. Chacun d'entre vous est né un jour précis. Oui, et vous portez naturellement cet ensemble cosmique par le fait même d'être assis dans cette salle. Certains sont arrivés les premiers, certains sont arrivés les derniers, certains attendus, d'autres moins. Mais il est vrai que vous formez ainsi une sorte de communauté. Il y en a qui arrivent toujours les premiers, il y en a qui arrivent toujours les derniers dans le monde précolombien. Or, si vous le regardez ici à partir de ce même moteur énergétique sous la forme d'une mort qui parle, eh bien, on ressent de nouveau ces 20 jours du calendrier. Il y en a qui sont favorisés, il y en a qui le sont moins. Oui. Il y a tout un système qui se met en place dans le calendrier aztèque et qui nous fournit justement véritablement cette notion non seulement de la divinité, non seulement de la création, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais véritablement une fonction qui fait que le mouvement se met en place et que petit à petit la roue n'est pas seulement une roue qui correspond au dieu ou au calendrier, mais devient en même temps le temps, l'énergie et l'espace. Oui. Or, tout cela est évoqué, si vous avez visité l'exposition du musée Rath, dans chacun des objets, dans chacune des vitrines. Lorsque vous imaginez que pour votre au-delà, vous allez vous charger vous-même d'un mobilier funéraire, que vous allez petit à petit le créer, que vous allez vous-même vous offrir, par exemple, votre propre enterrement, comme vous l'avez ici, avec le petit personnage au centre qu'on est en train d'enterrer, le petit chien qui va l'accompagner, ce côté extrêmement doux, je dirais même, de cette cérémonie, on comprend que tout à coup, cette valorisation de ce que nous appelons l'existence n'est pas du tout la même chez un précolombien. Oui. Plus exactement, lorsqu'on reprend les éléments de base, lorsqu'on se replonge dans ce premier des mondes, cette première époque, on ressent d'abord l'influence du jaguar, ce jaguar qui vit dans la jungle, qui sort de manière nocturne, qui représente la terre, qui a un ciel étoilé sur son pelage, qui est capable de tout ingurgiter et qui devient la base même de la création précolombienne. La première grande divinité, oui, qui lui-même va être ensuite accompagnée par cette deuxième forme chtonique qui surgit de façon spontanée de l'inframonde, c'est-à-dire le volcan, le magma, le feu, ce feu capable d'illuminer. Imaginez-vous une flamme allumée au centre de cette salle si tout était éteint. Il est vrai que c'est l'annonciation de quelque chose de nouveau. C'est déjà un soleil qui en annonce un autre. C'est le soleil dans l'obscurité encore, mais qui présage déjà de la lumière de demain. Oui, c'est un véritable brasero, une sorte de volcan posé sur la tête. Mais je pourrais évoquer, bien sûr, celui qu'on va petit à petit nommer Tlaloc, ou qu'on pourrait imaginer comme dieu de la pluie. Vous l'avez ici avec ses grains de maïs, comme on le suggère à Teotihuacan. Vous avez également cette idée du vent ou du serpent à plumes, sous la forme du dernier élément, celui qui naturellement est à l'opposé. On parlait de dualité tout à l'heure. J'ai mis deux éléments de façon inframonde. Je peux imaginer deux éléments sur le haut du monde. J'ai créé deux chauds, deux froids. Je peux tout à coup placer les choses exactement comme le précolombien l'imaginerait dans l'espace, oui. Or, c'est bien à Teotihuacan que pour la première fois, à part chez les Olmèques, on a suggéré ce côté orthogonal du monde. Quand on est devant cette pyramide d'1 million de mètres cubes de terre, qu'on sait qu'il y avait une grotte, qu'il y avait de l'eau à l'intérieur, qu'il y avait un tunnel de 112 mètres de longueur qui arrivait jusque à l'extérieur de cette incroyable construction qui a jailli d'un seul jet sur le sol de Teotihuacan à 2000 mètres d'altitude, et que tout cela était complètement orienté en fonction de l'espace solaire, c'est-à-dire ce passage extraordinaire, ces deux passages extraordinaires du soleil au zénith qui ont lieu chaque fois au mois de mai et au mois de septembre au Mexique, eh bien vous n'avez qu'à imaginer dans votre cerveau que le soleil vient de se lever derrière cette pyramide et qu'il va se coucher derrière vous maintenant, et vous marquez ainsi une sorte de ligne dans l'espace, oui, et vous avez incontestablement créé cette formule extrêmement rigoureuse qui, à Teotihuacan, va créer l'orthogonalité. C'est-à-dire, tout va être construit en fonction de cette visée astrale et de ce passage au zénith. Il y aura naturellement les deux équinoxes, il y aura naturellement les deux solstices, mais tout à coup, le monde se fige comme un véritable carré. Vous êtes vous-même dans un carré, oui. Ce carré lui-même forme quelque chose de très particulier que vous retrouvez dans l'ensemble des œuvres précolombiennes. Le masque de tout à l'heure évoquait déjà cette structure extrêmement rigoureuse, mais si vous regardez quelque chose de plus ancien, que ce soit de l'époque maya, que ce soit de l'époque olmèque, il y a encore autre chose qui surgit dans ces visages humains. Il y a quelque chose d'animal. Si vous savez regarder cette moue, si vous savez retrouver cette concentration, cette façon de loucher, ces yeux extrêmement fixes, vous retrouvez mon jaguar de tout à l'heure. Vous avez cette structuration qui fait que le visage se concentre véritablement dans cette énergie animale. Oui. Il est vrai que dans une tête géante de 2,50 m ou 2,60 m de haut, on ressent exactement la même chose. Lorsqu'on est placé ici, en plein cœur de la sculpture, on se dit que froncer comme cela ne peut venir que de l'animal prédateur par excellence. Cette façon de loucher extrêmement étrange, il n'y a que les chats bienheureux. L'ami chez qui je l'ai découverte est dans la salle, elle a un siamois. Lorsqu'une fois je l'ai vu loucher, j'ai compris qu'effectivement le jaguar faisait la même chose. Mais regardez la moue également de cette bouche, regardez la façon d'épater le nez. Il y a bien et bien quelque chose de curieux, oui, dans l'évocation de ces premières pièces. Prenez quelque chose qui fait à peine 7 à 8 cm de hauteur. Vous l'avez peut-être vu au musée, au musée Rath, vous l'aurez jusqu'au 24 janvier, ne l'oubliez pas. Eh bien, c'est vrai que vous aurez l'impression qu'en voyant ce petit objet de jadéite qui nous rappelle une première fois que ce soir je porte bien une veste verte. On est bien d'accord? Et qu'en l'occurrence, c'est bien la couleur qui correspond au sang, à la vitalité, aux choses importantes chez le précolombien. On a pu faire des centaines de kilomètres pour aller chercher un morceau de jadéite au fond d'une rivière à l'état natif, pour le transformer sans outil de métal et en faire tout à coup ce petit masque de jaguar et d'humain en même temps. Oui, là je repars au départ, mais je peux aussi vous dire que lorsqu'on évoque une offrande, lorsqu'on évoque un objet, lorsqu'on imagine tout cela enterré, on commence à comprendre comment fonctionne la petite graine mentale et spirituelle de l'objet précolombien. C'est-à-dire cette symbolique qui obligatoirement doit prendre racine dans quelque chose. J'ai parlé d'humus, j'ai parlé de matière, oui. Eh bien même ces grands objets, même ces simples haches avec ces étranges sculpture de surface sur un lissage absolument fou, sur un polissage démentiel qui demande souvent des mois de travail sans objet de métal jusqu'à ce que vous ayez accompli votre tâche, jusqu'à ce que vous soyez arrivé à ce côté extraordinaire du polissage. Il y a bien sûr cette volonté de décharger, de dépenser une énergie incontestable pour obtenir une charge d'énergie sur l'objet lui-même, dans l'objet lui-même, oui. Et il est vrai que quand on touche pour une époque presque similaire, et mon Dieu, si le musée Rath a créé un petit miracle cette année avec cette espèce de concentration phénoménale d'objets de mescala, eh bien c'est devant ces objets qui alors ont quelque chose de plus pour moi. Tout à l'heure, je parlais de dépenses, je parlais de transport, je parlais d'énergie, je parlais de force humaine pour charger l'objet. Ici, vous l'avez aussi dans un simple galet, mais vous avez en même temps un nouveau mot qui surgit immédiatement au cerveau, l'économie. Une extraordinaire économie. Une économie qui fait que chaque chose doit être pensée, doit être vécue, doit être mise en place, en mouvement, avec conscience, avec modération. Économiser, oui, une forme signifie aussi obtenir le meilleur résultat avec un maximum de moyens et en même temps un minimum de moyens. Vous voyez que les deux extrêmes se rejoignent. Mon alligator et ma fleur sont toutes proches. Ils sont tout proches dans l'idée même que le précolombien se fait de sa philosophie et de son existence. Oui, je viens d'entrer presque inconsciemment avec un simple galet dans la vie de tous les jours, dans le fonctionnement qui fait qu'une société fonctionne comme vous êtes assis ici. Silencieux, calme, sans bouger, ou le moins possible, et économe par le simple fait, oui, que vous êtes comme ces cailloux, des choses fixées et concentrées. Or, moins vous bougez, moins nous risquons. Là, j'ai déjà presque le résultat de la société, oui. C'est-à-dire que la seule chose qui nous fasse peur, oui, c'est l'idée cataclysmique. C'est l'idée de quelque chose qui tomberait. Comme quand on disait au premier monde, si les géants bougeaient, ils allaient tomber. Or, regardez cet objet, qui est peut-être celui qui m'a fasciné le plus et que je connais bien dans l'exposition du musée Rath. Chaque fois que je me trouve devant avec un petit groupe, j'ai envie de prendre mon temps. Prendre le bloc de pierre, toujours verte. Oui, mais ça revient. Je suis toujours en train de tailler. Non, non, tu peux laisser l'objet précédent, ce serait gentil. C'est mon micro qui a des problèmes. Creusez doucement le tube du manche. Préparez le couvercle. Formez ma courge. Et puis ensuite, à l'aide d'un vilebrequin, je veux dire un simple tube de pierre que vous aurez d'abord taillé, vous allez effectivement pénétrer la matière jusqu'au fond, faire une carotte, casser, faire une autre carotte à côté, recasser, continuer comme ça. Je vous donne une année ou deux, vous faites ce que vous voulez. Et je veux simplement que votre courge d'Halloween soit véritablement évidée. Et j'aimerais que maintenant, même si Ricardo ne l'a pas fait exprès, vous mettiez déjà le cliché qui suit à l'intérieur. Imaginez somme d'énergie, j'y arriverai, la somme d'énergie que représente l'intérieur de cette calebasse. C'est le vide qui compte. C'est ce que j'ai enlevé qui compte. Ce n'est pas ma sculpture, c'est l'épargne, c'est l'économie de tout à l'heure. Et là, j'ai mis en place véritablement l'idée de la force ou de l'usage de la force qu'avait le précolombien. Oui, vous voyez que c'est très similaire à nos énergies modernes. Quand je parle d'énergie atomique, au sens littéraire du terme, je suis très proche de la réalité. Prenez les ciseaux, découpez les quatre angles, essayez de remettre en place les petits arbres, essayez d'imaginer la partie centrale. Je vous ai enlevé volontairement les couleurs, je les ai effacées tout à l'heure, parce qu'elles changent d'une civilisation à l'autre. Mais vous pourriez imaginer un cœur vert, vous pourriez mettre le nord en noir, vous pourriez mettre le sud en jaune, un peu de rouge, un peu de blanc. Plaisir, je vais y arriver, il y avait du blanc. Hein? Je ne sais pas pourquoi ça se coupe, monsieur Grand, ce micro. Vous coupez les quatre angles, vous resserrez le tout, et comme quand on était enfant, eh bien, vous allez créer une sorte de pyramide. Vous voyez que tout à l'heure, j'ai fait éclater le monde en quatre éléments. Et j'ai placé le centre vital, le centre où nous sommes ce soir par rapport à Genève. Vous êtes dans le centre cérémoniel parfait. Vous êtes dans la compréhension absolue du centre, de la communauté, de la ville entière, du monde entier. Oui? En resserrant les quatre angles, je forme une pyramide. Et obligatoirement, je forme le centre cérémoniel par excellence, le théokali, l'endroit où vivent les dieux. Or, tout à l'heure, je l'ai orienté. Vous avez compris qu'il y avait le nord, le sud, l'est et l'ouest. Je n'ai pas tourné mon cliché à l'envers, il est juste. Rappelez-vous de la pyramide de Teotihuacan de tout à l'heure. Naturellement, si vous prenez les deux pyramides jumelles qu'on a essayé de dessiner sur la gauche, mais il est vrai que mon est se trouve bel et bien sur la gauche, que mon ouest se trouve sur la droite, donc le soleil zénital, le jour où il est sorti à droite, s'est couché au fond à... J'ai dit l'inverse, hein? S'il se lève à gauche pour vous, il se couche à droite, et naturellement... Le sud se trouve en haut de notre cliché et le nord en bas. L'orientation même du site devient parfaite. Ce carré est une perfection absolue. Oui, mes quatre éléments étaient en place. Et si je retrouve, et là j'ai demandé à l'hélicoptère de se mettre du bon côté pour vous montrer la photo comme il la fallait. Vous avez bel et bien sur la gauche toujours l'est, sur la droite toujours l'ouest, au fond le sud, derrière vous le nord. Or, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez plusieurs constructions. Nous sommes à Mexico Tenochtitlan, c'est ce qu'on vient de découvrir en plein cœur de Mexico. C'est le dernier des temples qui a été construit, mais c'est un temple jumeau. Vous le saisissez? Regardez les escaliers. Vous allez voir qu'effectivement, il y a plusieurs rampes d'escalier les unes sur les autres, puisqu'on a construit cette pyramide en plusieurs fois. Le temps s'est écoulé. Les temples, petit à petit, peuvent mourir. On doit reconstruire par-dessus pour réactiver, pour régénérer le temple. Et c'est vrai qu'il pousse plus facilement du côté droit, c'est-à-dire du côté des escaliers, c'est-à-dire du côté de l'ouest. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez toujours deux volées d'escaliers. Elles sont toujours jumelles. Contre vous, devant vous, il y a naturellement le temple de Tlaloc, ce dieu de la pluie, ce dieu ancien, ce dieu chthonien, celui qui repart du jaguar, celui qui était sous la terre, qui mentalement est sous la terre, comme une pyramide inversée. Et au fond, vous avez le temple de Huitzilopochtli, le dieu de la guerre, celui du soleil de midi, le Tenantiu de tout à l'heure, celui de l'énergie vitale qui est au sommet du ciel. Le nadir, le zénith, les deux forces côte à côte, en pyramide jumelle. Donc le centre du monde, la croûte terrestre du monde, se trouve exactement ici, au milieu, en appui, pyramide contre pyramide. Or mentalement, quand je dis Huitzilopochtli, celui qui vivait ici, au sommet du temple, je dis le colibri de la gauche. Mais je disais aussi le guerrier ressuscité du sud, c'est le même terme. Huitzilopochtli, c'est bel et bien le colibri de la gauche, parce que la gauche de l'univers se trouve ici. Or, si les colibris de la gauche, c'est que le colibri, c'est bel et bien celui qui, lorsqu'un guerrier meurt sur le champ de bataille ou sur l'autel des sacrifices au sommet de la pyramide, se transforme en colibri. Donc, il est bien le guerrier ressuscité du sud, puisque le sud se trouve toujours sur la gauche de l'univers. Oui? C'est pour vous montrer comment pense le précolombien. Huitzilopochtli, Tlaloc. Le haut, le bas. Cette pyramide est tournée à l'envers mentalement. Simplement, ils l'ont posée en jumelles pour expliquer l'immense et incroyable structure du monde. 13 niveaux qui montent vers le ciel, 9 niveaux qui descendent vers l'inframonde. Oui, c'est une solution presque finale. Parce que bien sûr, pour activer tout ce mouvement, toute l'énergie que je viens de mettre en place avec de simples éléments, il me faut naturellement un carburant, il me faut tout un système, toute une société qui fonctionne en harmonie. Ce jeune homme qui est le plus jeune de la salle, qui est assis en marge, dans le couloir, ben voilà un futur guerrier. Si je fais son calendrier aztèque, je pourrais peut-être déterminer s'il a la possibilité de devenir lui-même un guerrier. Ce serait une façon de monter dans la société, oui. Or, peut-être certains d'entre vous ont le signe du guerrier, d'autres pourraient avoir au contraire le signe de la prêtrise, qu'on vous passerait plutôt de père en fils. Là, je suis en train de structurer une société. J'ai besoin de deux pôles. Un pôle pour obtenir le carburant et le sacrifier, et l'autre pour le mettre en place et l'offrir au Dieu. Oui? Or, tout cela peut se transformer. Je peux moi-même, en tant qu'être humain, devenir la représentation du Dieu. Je peux moi-même, tout à coup, être transformé en Tlaloc. En Tlaloc avec sa foudre et son masque, avec ses lunettes qui ressemblent encore à ce côté très boudeur et terrifiant du jaguar de tout à l'heure. Oui? J'ai juste parlé de quelques éléments, mais c'est vrai que lorsqu'on parle de dualité, on ne peut pas parler du soleil sans parler de la lune. Et il est vrai que dans les éléments divins, Coyolxauhqui, que vous avez sous les yeux, a été une révélation pour l'archéologie mexicaine lorsqu'on l'a retrouvée sous le trottoir de la rue Guatemala au début des années 70. 3,40 m de côté, donc un peu plus grande que ce que vous avez sous les yeux. Démembrée par son propre frère, Huitzilopochtli. Une grande légende qu'on pourrait raconter. Mais ce qui est important, c'est que tout à coup, ces derniers arrivés, ces Aztèques, ces guerriers, vont vouloir ainsi découper mentalement la première sacrifiée, cette lune qui correspond au cycle précédent, à l'agriculture, et en faire la première victime des sacrifices humains, afin de mettre en place ce moteur solaire, cette incroyable formule sacrificielle, oui, qui est beaucoup à la mode qu'on l'imagine dans l'histoire précolombienne. Coyolxauhqui va perdre la tête, c'est vrai. Celle au grelot d'or, comme vous le voyez sur ses joues, va devenir la symbole, enfin le symbole même de cette nouvelle formule. De l'agriculture, d'un monde ancien, oui, on va passer à un monde beaucoup plus terrifiant. Pour vous, pas pour le précolombien. N'oubliez pas tout à l'heure, en sculptant quelque chose, j'étais extrêmement économe. Prenez n'importe quel article de vos journaux et vous verrez qu'au moment où je prononce le mot guerre, il y a mort. Quand je prononce le mot guerre chez le précolombien, il y a sacrifié, ce qui n'est pas la même chose. Je vais épargner quelqu'un sur le champ de bataille, je vais même le réutiliser, comme vous l'avez ici, après son sacrifice, pour en faire quelque chose de divin. On va lui planter son propre couteau de silex dans le nez, on va l'agrémenter, vous en avez vu au musée, sous d'autres formes, oui. Mais ceci, c'est une économie incroyable, puisqu'en fait, en plaçant ces gens-là dans le Tsompantli, il y a très très peu de déchets. Il y a très peu de pertes humaines. Si je devais prendre une personne dans cette salle, ceci permettrait à tout le reste de vivre. Si la moitié de la salle faisait la guerre à l'autre moitié de la salle, il y aurait beaucoup plus de morts. À partir de là, l'idée du Tsompantli devient quelque chose de fabuleux parce que, regardez celui-ci. Vous voyez bien les tibias, vous voyez bien les crânes. C'est un lieu d'enterrement, c'est bien là où on mettait les crânes des victimes, où on mettait effectivement en exposition ces crânes des sacrifiés. Eh bien là, non. Dans celui-ci, on plaçait quelque chose qui m'a toujours troublé. C'était des bottes de roseau. Vous savez, ces bottes de roseau, ces 52 roseaux que l'on mettait ensemble lorsque le hasard du calendrier faisait que 73 tours de 260 jours rejoignaient 52 tours de 365 jours. C'est-à-dire tous les 18 980 jours, tous les siècles précolombiens, on faisait une botte avec les 52 années solaires sous forme de roseau pétrifié, une sorte de sculpture extraordinaire qui ressemble un peu au tambour d'eau, à ce tambour à languette que vous avez entendu tout à l'heure, et on l'enterrait. On était capable d'enterrer un siècle. Vous vous voyez à la fin de cette année en train d'enterrer votre siècle? Afin d'imaginer effectivement que... Pardon. Que le temps est également quelque chose de vivant, oui. À partir de là, le sacrifice s'assimile beaucoup mieux, même s'il a beaucoup choqué nos premiers Espagnols. Ce sacrifice, oui, qui devient moteur non seulement du temps et des choses, comme on le ressentirait à Chichen Itza ou dans les Tsompantli que j'évoquais tout à l'heure, où les crânes étaient mis en brochette, une sorte de conservation presque à l'infini de cette matière première et vitale, oui, eh bien, je dirais que c'est seulement lorsqu'on intervient sur le plan de ce que vous allez visiter au musée Rat, par exemple le jeu de pelote, que l'on comprend vraiment le côté, oui, le côté universel de ce sacrifice humain. Regardez ce jaguar en train de dévorer ce cœur humain. Eh bien, c'est seulement quand on a saisi le pourquoi de cette matière première qu'on commence à comprendre que la fleur de la vie, c'est bel et bien le seul but d'une existence, oui. C'est-à-dire que pour un précolombien, il n'y a rien entre sa naissance et la mort. Ce qui compte, c'est la façon de naître, le destin, votre signe, et la façon de mourir, qui est déjà dans ce signe et ce destin. Regardez la balle du jeu de pelote, telle qu'elle est représentée de façon géante sur le jeu de Chichen Itza. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir une mort avec le même signe que j'évoquais tout à l'heure, le Insochitl Inquicatl. C'est bel et bien cette mort fleurie, cette mort qui vit, qui est véritablement étincelante de vie, je dirais presque végétale, oui. Eh bien, c'est vrai que sur le bas-relief qui l'entoure, vous la retrouvez encore un peu ici, vous avez bel et bien le chef de l'équipe perdante qui tient encore son fer à repasser en bois pour envoyer sa balle, qui tient encore son joug que vous avez vu à l'exposition, qui tient encore sa batte telle que vous l'avez vue à l'exposition, mais qui n'a naturellement plus de tête, oui, puisqu'elle a été remplacée par sept serpents. Oui. Au Chichen Itza, c'est bel et bien le gagnant avec son grand poignard de silex qui tient la tête de celui qui a été sacrifié et ce qui était son sang se transforme, comme ma veste, en plume de quetzal de couleur verte. Végétation, l'idée de la vie, oui, tout cela avec cette idée même du jeu. Vous comprenez que le mot jeu, à ce moment-là, oui, évoque quelque chose de tout à fait différent. À l'instant où l'on joue à la pelote, à l'instant où on évoque ce mot olin, qui veut dire caoutchouc, la balle du jeu de caoutchouc, oui, eh bien obligatoirement, on évoque en même temps l'anneau dans lequel elle va passer. Cet anneau qui devient de façon incroyable la jonction des six moments importants de l'année. Oui, il y a six positions dans ce jeu. Il y a six positions qui font qu'effectivement, vous avez deux passages au zénith, deux solstices et deux équinoxes. Et qu'ainsi, en passant la balle à l'intérieur d'un simple anneau, j'ai, comme sur un camembert, marqué deux fois les serpents de chaque côté et une fois au centre, comme si de façon giratoire, j'avais, par un seul but, marqué l'année, oui, marqué le temps, marqué l'espace. Tout comme on le sait sur la pyramide de ce même site de Chichen Itza, il suffit de monter 4 fois 91 marches et de monter la dernière pour obtenir ce même chiffre. Je vais y arriver. Ce même chiffre de 365 jours. Et que vous pourriez évoquer aussi par les serpents qui ondulent doucement 2 fois par année au moment des équinoxes ou des solstices. Oui? Si j'ai parlé et du jeu de pelote, c'est peut-être parce que c'est le point crucial de l'exposition du musée Rat et de ce côté énergétique et divin. Et qu'en fait, oui, Ce n'est pas nécessaire d'évoquer les dieux en soi, mais d'évoquer surtout le jeu divin. Ce jeu de pelote parfait qui fait qu'en opposition, effectivement, on va se renvoyer dans cet espace tout l'ensemble des forces cosmiques que j'évoque depuis le début. Oui. La mort, le sacrifice, c'est toujours ce qui apparaît en finalité de ce jeu. Vous le savez peut-être, le seul mot du vocabulaire précolombien qui était interdit, qui n'existait même pas, c'est le mot hasard. Oui. Je crois que ce soir, en comprenant comment on pouvait terminer sa vie lorsqu'on se consacrait à la fois aux divinités ou qu'on était choisi pour être consacré aux divinités, comme on l'est ici dans le jeu de pelote et dans la stèle que vous avez vue certainement au musée Rath, oui, eh bien, c'est naturellement pour obtenir ce que nous avons de mieux dans l'au-delà, puisque c'est votre seule solution. J'ai dit que la naissance et la mort étaient les deux éléments principaux, donc c'est bien l'au-delà qui compte le plus. Votre mobilier funéraire, votre palme transformée en pierre, oui, votre hache ou votre deuxième palme également pétrifiée que vous allez prendre pour partir dans l'au-delà, oui, et qui va vous accompagner comme le joug ou même cette autre palme en forme d'alligator qui nous rappelle la naissance des choses. Regardez ces petites montagnes sur son dos, cette volute extraordinaire, cette spirale qui nous rappelle la naissance du monde, oui. Où se joue avec ce côté batracien, chthonien, jaguar, mort, comme vous les avez vus au musée aussi. Tout cela, une sorte d'oreiller pour notre joueur de pelote, pouvait être placé à l'intérieur de sa tombe après avoir remplacé, bien sûr, l'objet qui était auparavant de bois ou de cuir. Oui. Ces joues qu'on plaçait naturellement, vous l'avez vu tout à l'heure par la petite statue de Raina, autour de la taille et qui permettait de faire rebondir la balle, tout comme la palme, ou les objets qui étaient des sortes de pins, oui, enfin ce que j'appelle des pins, ce sont ces objets étranges que l'on a retrouvés en marge du jeu de pelote et qui étaient un peu les insignes des joueurs. Essayez de vous imaginer partir avec cet insigne de jeu pour votre prochaine partie. Regardez bien la scène. Une pyramide. Et le personnage qui est complètement arc-bouté en arrière, prêt à offrir le meilleur de lui-même. Oui, ceci est au musée. J'ai volontairement choisi une autre hache pour vous montrer que tous les éléments sont possibles dans cette espèce de représentation du joueur. Oui, mais si je prends celle que nous avons au musée d'anthropologie, incontestablement, par l'expression de la bouche et par l'ouverture du poitrail, on est déjà au résultat de tout à l'heure. On a bombé le torse, c'est vrai, mais pour obtenir ce résultat. Donc vous partez vous-même au jeu, comme vous iriez faire une partie de basket ou de football, avec ce symbole de votre propre fin. Oui? C'est explicite. Et même dans les balles ou dans les sujets qui représenteraient des balles de jeu de pelote, on ressent toujours ce côté chthonien, ce même espace, cette même fonction astrale ou stellaire que j'évoquais tout à l'heure. Oui? À El Tarim, c'est assez sensible. El Tarim, c'est un peu pour moi la capitale du jeu de pelote. Ça se trouve sur la côte du Golfe, bien sûr, chez les Totonacs. Et là, on retrouve nos deux champions face à face. Mais ce qui est intéressant, c'est ce petit symbole qui est au centre, vous le voyez, et qui se trouve juste en dessus. Elle était un peu effacée par la pluie et le vent, de la balle qui, elle, est restée en plein air. Or, cette partie a été protégée en tombant à terre. Et là, on voit bel et bien le symbole qu'on retrouve ici aussi, d'ailleurs, c'est-à-dire ce symbole du mouvement, le mot olin que j'évoquais tout à l'heure par le calendrier. Oui, vous allez voir qu'il se retrouve un peu partout. Même à l'heure de la mort, le personnage le tient toujours sur son joug. On va lui planter naturellement le couteau de sacrifice. C'est la fin du jeu, c'est la finalité du jeu. Et chacun des personnages principaux a toujours cette impression de mettre les choses en mouvement avec une divinité qui vient assoiffé, attendre le résultat des courses. Oui. Or, n'oublions pas, et nous le savons par certains détails, et celle-ci est aussi au musée Rath, vous retrouvez le même hiéroglyphe sur la coiffe, ce côté mouvement qui nous prouve bien que ce personnage est complètement drogué. Bien sûr, ça c'est un autre aspect, le véhicule même qui nous permet de mieux comprendre comment l'on accepte tout ce que je suis en train de dire. Tout ce que je suis en train de vous faire avaler ce soir. et que la drogue est pratiquement, oui, le seul moyen de supporter,
Je ne sais pas pourquoi il s'arrête.
d'accepter le résultat du jeu de pelote, oui. Eltarine, avec ses 365 niches, évoque cette constance et cette obligation à travers le calendrier d'avoir tous ces rituels. Et là, je touche à la fois les soleils et les dieux, bien sûr, oui. Cette double insistance, dirais-je, que les précolombiens avaient. Vous l'avez ici dans une fresque de Diego Rivera du Palais National, où on évoque non seulement les 365 niches de El Tarín, mais aussi le jeu, la danse, le In Xochitl, In Cuicatl de tout à l'heure, qui est obligatoire avec à la fois la poésie, le chant, mais bien sûr la musique, le théâtre, et puis même ces grands jeux comme les voladores. Essayez d'imaginer les 13 tours de ces hommes oiseaux qui descendent doucement et qui 13 fois 4 vont reprononcer le terme de 52 années que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y a pas un rituel qui ne soit en fonction de cette mathématique extraordinaire, oui. Or, dans la vie quotidienne, il est bien clair que c'était la seule obsession de chacun d'entre nous. Il y avait celui qui parlait, celui qui savait, et puis il y avait ceux qui devaient obéir, bien sûr. Or, obéir signifie passer sa vie à chercher, oui, cette fin et comprendre que Mictlantécuhtli, le dieu de la mort, n'est pas quelque chose qui fait peur. D'ailleurs, vous le savez, au Mexique, le 1er ou le 2 novembre, on a toujours ces calaveras, on a toujours cette façon d'affronter la mort avec une certaine, je ne vais pas dire joie, mais en tout cas une forme d'humour très particulier. Un humour qui nous fait comprendre que c'est seulement en analysant quelques petits éléments de notre calendrier aztèque que nous avons compris qu'il y avait maintenant ce mouvement très doux qui part de notre alligator, qui va vers la maison, ensuite vers le lézard, qui tourne doucement jusqu'à la mort et aux 13 fleurs de la vie, et qui met en mouvement, je le rappelle, le jaguar, le feu, l'eau et l'air. Et Olin qui vous attend avec sa langue. Sa langue incroyable, qui est un véritable couteau de silex à l'envers, un couteau de silex coincé entre les dents, et qui dit: Je vous attends, je veux mon service de bouche, j'ai besoin de me nourrir. Et au moment où vous ouvrira le poitrail, il est vrai que les 6 litres de sang vont descendre vers ce Tlaloc, dieu de la terre, pour l'abreuver, et que le solide, ce cœur humain, sera tout simplement déposé sur un brasero pour monter dans une odeur extraordinaire à travers l'encens. Jusqu'au Dieu, jusqu'au soleil de midi. On va voir en musique maintenant s'il est possible de remonter l'histoire et d'évoquer d'autres formules à travers le temps et la chronologie. Je ne sais pas où sont cachés mes musiciens, je pense qu'ils sont encore à la tequila. Mais ça nous permet de faire un petit entracte et de respirer un peu. Agua para chocolate. Estaba esperando.
Menderos canta, huiz, mirasum, abre, sicaris, miricuare.
Imaginez que vous soyez en 1325 et que vous soyez les premiers à pénétrer dans cette vallée de l'Anahuac, de construire votre première pyramide à la façon aztèque, au milieu de ce lac, encore presque vierge, sur cette île désignée par Huitzilopochtli. Imaginez que dans ce lieu où régnait Tlaloc et tous les dieux de l'agriculture, oui, eh bien, vous vous retrouviez un peu dans l'esprit de Netzahualcoyotl que j'évoquais tout à l'heure. Au départ, la perception douloureuse du temps et de son œuvre, je le dis moi, Netzahualcoyotl. Alors, vivons-nous vraiment sur la terre? Non, nous ne sommes pas pour toujours sur la terre. Seul un petit instant ici. Même le jade se brise. Même l'or se fend, même la plume de Quetzal se déchire. Non, nous ne sommes pas pour toujours sur la terre. Seul un petit instant ici. Ainsi, simplement, un 13 août 1521, il a suffi de quelques heures pour que Mexico Tenochtitlan tombe, oui, et que tout à coup, dans cette même vallée de Mexico, au son d'instruments nouveaux, étranges, on évoque cette nouvelle divinité, Guadalupe, la Vierge des Amériques, celle qui a remplacé Tonantzin, la mère des dieux, celle qui avait créé effectivement Huitzilopochtli sous la forme que vous connaissez, et puis Coyolxauhqui, la divinité de la lune, et les 400 lapins qui représentent l'ensemble des étoiles et des galaxies de tout à l'heure. Cette même divinité qui, par un hasard tout à fait curieux, a vu tomber du ciel une petite boule de plume, l'a glissée dans sa ceinture, et au bout de quelques semaines, elle était enceinte, de façon un peu magique, un peu comme la Vierge Marie. La sœur du futur Huitzilopochtli, Coyolxauhqui, jalouse, avec ses sœurs, les étoiles vont vouloir sacrifier, oui, leur propre mère. Et c'est là, justement, à Guadeloupe, que le miracle va se faire, puisque ce premier sacrifice va permettre la création du monde et la venue de Huitzilopochtli, ce dieu solaire, cette énergie qui est née d'un seul jet, tout armé, en véritable guerrier, un peu comme le Christ, dieu de la lumière. Et puis l'histoire continue, c'est vrai. Oui, on se retrouve quelques siècles plus tard avec des personnages qui pourraient avoir la même importance lorsqu'on parle des dieux. Par exemple, oui, du côté de Oaxaca, un jour de Guelaguetza, lorsqu'on évoque le lundi de la montagne. et les dieux de la province, de cette ville et de cet ensemble de l'état de Oaxaca, la Paternera. Oui. Guelaguetza, qui est un peu cette offrande, avec cette voix, celle de Martha, cette voix un peu aigrelette, comme on la retrouve déjà à l'époque précolombienne, comme elle continue jusqu'à aujourd'hui à travers l'histoire. Ces voix qui viennent des différentes provinces de Oaxaca et qui sont présentées là un peu comme une offrande, puisque la Guelaguetza, c'est bien et bien celle-ci, le lundi de la montagne, c'est l'offre que l'on fait non seulement aux divinités, mais également en l'honneur du président Juárez, ce premier président indien, métis, du Mexique, qui est mort en 1872 et qui a offert la réforme au pays et qui est ainsi repris, à cause de sa mort le 18 juillet, les deux lundis qui suivent cette même date en offrande, une des plus grandes fêtes du pays, la Guelaguetza. On pourrait évoquer aussi, en remontant petit à petit l'histoire, ce qui va se passer, oui, bien sûr, au moment des grands moments, tels que la réforme ou tels que l'indépendance, qu'on aurait déjà pu évoquer à partir de 1810. Il est vrai qu'on pourrait imaginer nos musiciens, nos chanteuses, nos chanteurs, au coin d'un feu ou dans une région, que ce soit le Michoacán, que ce soit le Guerrero, au moment où, par exemple, un certain Hidalgo, un 15 septembre 1810, en bon créole catholique et curé, va sonner une cloche pour annoncer l'indépendance et couper les liens avec cette Espagne que vous entendez déjà par les instruments à cordes depuis quelques siècles. Oui?
Yeah.
Bravo. Oui, toute indépendance faite, un jour, on se retrouve à un autre moment de ces mythes mexicains. On parlait de Dieu, on parlait de soleil, on a l'impression que les chronologies tournent, oui. Et c'est vrai que la plus forte de ces dernières décennies, c'est bel et bien l'incroyable révolution mexicaine de 1910. Après tout, la première république communiste est née en 1905 au Mexique. Et puis aujourd'hui, on parle d'un mouvement du 21e siècle. Allez savoir pourquoi. On parlerait de Zapata ou de Pancho Villa. Pancho Villa, qui est bel et bien le centaure du Nord. Zapata, celui qui va s'occuper des paysans de la région de Cuernavaca, de Morelos. Ce Pancho Villa qu'on évoque souvent dans les corridos. Ces corridos qui sont des histoires, un peu comme on les apprenait dans les calmecacs précolombiens. Ces histoires qui n'en finissent plus, qui se racontent au coin du feu, à l'heure de la Révolution. Et là, avec un peu de nostalgie, on va nous parler effectivement d'un acte de ce Pancho Villa.
Thank you.
Bravo. Oui, toute indépendance faite, un jour, on se retrouve à un autre moment de ces mythes mexicains. On parlait de Dieu, on parlait de soleil, on a l'impression que les chronologies tournent, oui. Et c'est vrai que la plus forte de ces dernières décennies, c'est bel et bien l'incroyable révolution mexicaine de 1910. Après tout, la première république communiste est née en 1905 au Mexique. Et puis aujourd'hui, on parle d'un mouvement du 21e siècle. Allez savoir pourquoi l'on parlerait de Zapata ou de Pancho Villa. Pancho Villa, qui est bel et bien le centaure du Nord, Zapata, celui qui va s'occuper des paysans de la région de Cuernavaca, de Morelos. Ce Pancho Villa qu'on évoque souvent dans les corridos, ces corridos qui sont des histoires un peu comme on les apprenait dans les calmecacs précolombiens, ces histoires qui n'en finissent plus, qui se racontent au coin du feu, à l'heure de la Révolution. Et là, avec un peu de nostalgie, on va nous parler effectivement d'un acte de ce Pancho Villa. Marta, Carlos, María Elena et Paco. Marta, avec sa voix d'Hermosillo, un peu du nord, hein? Tout à fait dans le genre corrido. Oui. Et il est vrai que c'est toujours troublant lorsque on avance dans le temps. Il reste 18 mois de 20 jours. pour que ces 22 millions d'habitants changent de millénaire. Mexico, Tenochtitlan était déjà la plus grande ville du monde, avec 1 million d'habitants en 1519. Mexico aujourd'hui, avec son Templo Mayor, avec son Zocalo, sa croissance démesurée, c'est un peu comme un soleil, comme le soleil dans lequel nous vivons, le soleil des quatre mouvements, celui qui doit se terminer par les tremblements de terre et les famines. Oui? À quoi rêve un Indien, un enfant d'aujourd'hui? Quels sont ses dieux? Quels sont ses mythes? Il vole Mexicana? Il a appris en regardant un peu la télévision qu'il existait des héros de plastique? Il est assis sur un trottoir de Mexico. Il attend l'an 2000, 18 mois de 20 jours, et il y sera. Dans quelques années, il sera adulte. Il est né. Sa fleur de la vie bat. Oui. Comme tous les objets précolombiens, avec ce côté périssable, quelque peu de turquoise, taillé doucement, finement, posé sur un peu de résine, sur un rien de bois, qui petit à petit peut pourrir et qui par miracle est resté. Allez au Muséerat, pensez aux cinq soleils, vivez-les, vivez dans le dernier, laissez l'énergie se faire, all in, le mouvement. Merci. Merci encore au groupe In Search of Linquicatl, à Maria Elena, à Marta, à Carlos et à Paco. Et je vous assure que ce soir, ils avaient tout autant le trac que la première fois. C'était une seconde spécialement pour vous, juste pour changer d'année et vous souhaiter une excellente fin de millénaire. À bientôt.